Bonjour chers auditeurs, Catherine Mann au micro pour vous présenter L'Esprit du Livre, une émission qui chaque mois vous parle de quelques livres de parution récente qui concernent directement ou indirectement la foi chrétienne. Et voici d'abord le père Roger Willem à qui je passe la parole pour vous présenter son premier ouvrage.
Voici un premier livre pour cette émission L'Esprit du Livre, La force du silence contre la dictature du bruit, par les éditions Fayard, du cardinal Robert Sarra avec Nicole Dia, paru en septembre 2016. Dans une époque de plus en plus bruyante, alors que la technique et les biens matériels ne cessent d'étendre leur emprise, c'est certainement une gageure que de vouloir écrire un livre consacré au silence. Pourtant, le monde émet tant de bruit que la recherche de quelques gouttes de silence n'en devient que plus nécessaire. Oui, quelques gouttes de silence. Pour le cardinal Robert Sarra, à force de repousser le divin, le moderne se retrouve dans un grand silence, une épreuve angoissante et oppressante. Le cardinal veut rappeler que la vie est une relation silencieuse entre le plus intime de l'homme et Dieu. Le silence est indispensable pour l'écoute de la musique de Dieu, la prière née du silence, et revient sans cesse plus profondément. Après le succès international de Dieu ou rien, traduit dans 14 langues, le cardinal entreprend de redonner au silence ses lettres de noblesse. Et voici un passage de ce magnifique livre. Dieu nous porte et nous vivons avec lui à tout instant en gardant le silence. Rien ne fera mieux découvrir Dieu que son silence inscrit au centre de notre être. Si nous ne cultivons pas ce silence, comment trouver Dieu? L'homme aime voyager, créer, faire de grandes découvertes, mais il reste au dehors de lui-même, loin de Dieu, que silencieusement dans son âme. Je veux rappeler combien il est important de cultiver le silence pour être véritablement avec Dieu. Saint Paul, en s'appuyant sur le livre du Deutéronome, explique que ce n'est pas en traversant les mers que nous rencontrerons Dieu, car il est dans notre cœur. Ne dis pas dans ton cœur qui montera au ciel en temps pour en faire descendre le Christ, ou bien qui descendra dans l'abîme en temps pour faire remonter le Christ de chez les morts. Que dit-elle donc? Eh bien, la parole est tout près de toi, sur tes lèvres et dans ton cœur. Entends la parole de la foi que nous proclamons.
Thank you.
Je vous présente à mon tour un livre dont la bibliothèque diocésaine de Chartres vient de faire l'acquisition et dont le titre est « À cause du Christ, le retournement de Paul le Juif » de Yara Matta. C'est un livre paru au CERF dans la collection Lectio Divina au début de 2013, donc pas tout neuf, mais qui vient donc d'être acheté par la bibliothèque. Il fait partie des nombreuses études sur l'apôtre Paul qui paraissent depuis quelque temps et qui revalorisent particulièrement les racines juives de saint Paul. De cette effervescence de la recherche exégétique se dégage principalement un axe socio-historique, pourrait-on dire, qui développe une connaissance approfondie du judaïsme au temps de Paul. Et ces progrès de la science historique permettent aussi de mieux saisir les rapports entre le judaïsme et le christianisme naissant. Et donc, d'une part, pour les chrétiens, cela conduit à mieux articuler le Nouveau Testament avec l'Ancien. Et d'autre part, pour le judaïsme, ça lui permet de se réconcilier un peu avec Paul, qui jusqu'ici était considéré comme un affreux hérétique, traître à sa tradition, donc qui est un peu réhabilité grâce à ses études. Car Paul est replacé dans son contexte, mieux compris, et cela permet de faire avancer le dialogue entre juifs et chrétiens. Et c'est donc particulièrement le cas pour ce livre que je vous présente maintenant. L'auteur d'abord, Yara Matta, qui est une religieuse, membre de la congrégation des sœurs maronites de la Sainte Famille. Elle est docteur en écriture sainte. Elle enseigne d'ailleurs à l'Institut catholique de Paris, ainsi qu'à l'Université Saint-Joseph à Beyrouth. Dans cet ouvrage, Yara Matta fait une analyse approfondie d'une toute petite section du chapitre 3 de la lettre de saint Paul aux Philippiens, précisément les versets 2 à 21. Je vous rappelle que dans le chapitre 3 de cet épître, Paul ébauche un autoportrait détaillant avec fierté les qualités donc, qu'il tient de son appartenance au peuple juif. Et pourtant, il y affirme également l'enthousiasme qu'il a de tout abandonner de ses privilèges pour suivre le Christ. Le mieux est que je vous lise les quelques versets de cet épître aux Philippiens, chapitre 3, ceux qui sont donc au cœur des réflexions de Yara Matta, donc les paroles de Paul, pour la circoncision du huitième jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, fils d'hébreu, pour la loi pharisien, pour le zèle persécutant l'Église, pour la justice qui est dans la loi devenue irréprochable. Mais ce qui était pour moi des gains, cela je l'ai considéré à cause du Christ comme une perte. Mais plus encore, je considère tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. Donc nous sommes là à la racine de notre foi chrétienne, entre continuité avec la tradition juive et rupture radicale. Dans son étude, l'auteur articule bien sûr cette problématique avec d'une part une présentation des enjeux théologiques, essentiellement autour de la circoncision, qui en Christ devient une réalité spirituelle, et d'autre part avec l'analyse de ce qui fait le titre du livre, le retournement à cause du Christ, puis de l'être en marche dans le Christ, et enfin d'un appel à l'imitation des apôtres, donc imitation, apôtres comme exemple de la vie chrétienne. Nous ressentons à travers ce livre l'expérience même que Paul a faite de la puissance du ressuscité et les raisons des choix radicaux qu'il fait pour grandir dans la connaissance intime du Christ ressuscité et s'y conformer. Et nous voyons aussi comment Paul va passer de l'expérience personnelle à l'exhortation, à l'annonce du Christ qui va se répandre pour fonder l'Église, et tout cela sans renier ses origines juives, mais en leur donnant un éclairage nouveau. En fait, saint Paul incarne, puis raconte, la capacité du ressuscité à transformer les hommes. Christ les invite dès cette vie à réévaluer leurs valeurs et à poursuivre l'unique bien nécessaire. Et donc le retournement, en fait, en hébreu, c'est à peu près la signification de conversion, mais retournement est plus imagé. Le retournement exemplaire, de se convertir pour accueillir continuellement la nouveauté de Dieu qui advient dans le monde. C'est une phrase de notre auteur. Cette étude biblique n'est donc pas seulement une réflexion théorique, mais aussi une source d'inspiration pour notre vie chrétienne aujourd'hui. Je vous conseille donc de vous le procurer à la bibliothèque diocésaine à Chartres, rue Saint-Aimant. Je vous rappelle le titre du livre « À cause du Christ, le retournement de Paul le Juif » de Yara Matta.
Voici un deuxième livre, en route vers Chartres, dans les pas de Charles Péguy, de Pierre-Yves Le Priol, et la préface de Michel Péguy aux éditions Le Passeur, paru en mars 2016. Prendre la route de Chartres un beau matin et marcher pendant 3 jours pour apercevoir les flèches de la cathédrale si célèbre, cette cathédrale gothique, comme posée sur les blés. Tel est le voyage que Pierre-Yves Le Priol a réalisé 100 ans après Charles Péguy. 3 amis l'accompagnent, dont le petit-fils de l'écrivain Michel Péguy. Au fil des étapes, nous découvrons ce chemin, un chemin buissonnier, traversant les bois de la vallée de Chevreuse, les beaux villages du Hurepoix, puis la vaste plaine de Beauce. La marche va bon train, le récit aussi. Pas à pas, la pensée et les écrits de Péguy se révèlent aux 4 pèlerins, une œuvre qui aide chacun d'eux à mieux vivre. Une annexe pratique clôt ce récit vivant, sensible et plein d'humour, décrivant le chemin de Charles Péguy, récemment inauguré, que randonneur et cycliste peuvent désormais emprunter. Une invitation à se mettre en route vers l'une des plus belles cathédrales de France sur les traces d'un écrivain à la pensée stimulante. Pierre-Yves Le Priol est journaliste et secrétaire général de la rédaction du quotidien La Croix. Il est membre du conseil de direction de l'amitié Charles Péguy. Voici un passage de ce magnifique livre. L'heure de midi arrive et nous sommes bien avancés sur l'ancienne voie de l'aérotrain. Nous avons à peine pris le temps d'avaler nos sandwichs et de boire un peu d'eau sans parvenir à nous caler tout à fait l'estomac. Au fil des panneaux explicatifs, disposés de loin en loin, un parcours nature suggère aux promeneurs de découvrir la flore sur les haies qui bordent la voie verte, aubépines en fleurs, clématites, noisetiers. J'éclate tellement dans ma création, dit Dieu, dans le soleil et dans la lune et dans les étoiles, dans toutes mes œuvres, dans toute naissance et dans toute vie. C'est Michel qui se met à déclamer et il poursuit. Dans la calme vallée, dans les plantes et dans les bêtes des forêts, j'éclate tellement dans ma création pour ne pas me voir vraiment. Il faudrait que ces pauvres gens fussent aveugles. J'ai reconnu les premières pages du Porche des Mystères de la Deuxième Vertu datée de 1911 et l'émotion me saisit car c'est par ces vers récités devant moi, ici, par son petit-fils, que je suis entré un jour dans l'œuvre de Péguy.
Je vous propose maintenant un deuxième livre utile pour une meilleure connaissance du judaïsme et pour l'amélioration des relations judéo-chrétiennes. Mais vous serez sans doute très étonné de mon choix, bien qu'il s'agisse d'une parution toute récente, parce que je vais vous parler maintenant d'une bande dessinée. Il s'agit d'une nouvelle et excellente aventure de Lucky Luke, paru en novembre 2016 et dont le titre est « La terre promise ». Son auteur et scénariste s'appelle Julien Bergeot, plus connu sous le pseudonyme de Jules, assez connu pour même des bandes dessinées et des films à la télévision que malheureusement je ne connais pas. Cet homme a fait de longues études avant de devenir dessinateur, dessinateur de presse humoristique et auteur de livres pour enfants. En fait, il a fait Normal Sup et il est agrégé d'histoire. Et cette formation intellectuelle, assez poussée, se sent dans ce petit ouvrage humoristique, car en réalité, il y fait appel à une sérieuse, très sérieuse érudition sur le judaïsme. Je vous signale que Julien Bergeau vient d'ailleurs d'être promu au grade d'officier de l'Ordre des Arts et des Lettres. Donc son talent est reconnu. L'histoire de cette bande dessinée est assez simple, il faut le reconnaître. Il s'agit de l'émigration d'une famille juive d'Europe de l'Est qui veut venir rejoindre des parents déjà installés dans l'Ouest américain. Et donc, bien sûr, le voyage va rencontrer quelques turbulences, mais tout finit bien grâce à Lucky Luke. Ce n'est évidemment pas pour ce mince récit que je prends la liberté de vous recommander ce petit livre, mais plutôt pour une infinité de petits détails, image après image et bulle après bulle, qui décrivent avec intelligence et énormément de finesse la culture et la religion juive. En réalité, pour bien goûter l'intérêt de cette lecture, il faut savoir prendre son temps pour étudier chaque jeu de mots et approfondir chaque discrète allusion qui renvoie avec humour et tendresse à une somme énorme de connaissances du judaïsme. Il y a même tellement de choses à remarquer que je n'aurai pas le temps de tout vous dire ici, mais je vais essayer de résumer l'essentiel. Il faut d'abord admirer que le tragique des persécutions antisémites n'est pas du tout dissimulé, mais que tout est dit avec subtilité et dans le respect de l'autodérision si familière aux Juifs. On passe avec légèreté sur l'origine de ces émigrés qui viennent de Pologne. Il s'agit du grand-père et de la grand-mère de deux enfants qui fuient les pogroms de Pologne où le père et la mère des enfants ont été massacrés. Et c'est ça la cause de la fuite des grands-parents vers une terre promise, les États-Unis, plein d'espérances nouvelles. Alors, on se moque gaiement et avec gentillesse de la naïveté de ces immigrés qui arrivent dans un monde un peu brutal et qui ne perçoivent pas les mauvaises intentions de tous les escrocs qui sont là à les guetter, ou qui, par exemple, s'étonnent d'une étoile jaune que porte le shérif, allusion évidemment à l'étoile jaune historique qu'on faisait porter aux Juifs. Toutes les bonnes caricatures juives sont présentes. Peut-être parfois trop, par exemple pour la femme surprotectrice, grand-mère juive qui gave Lucky Luke au point de le faire grossir et qui veut absolument le marier. Mais il y a aussi le cliché du pessimisme de la culture juive qui transparaît à travers le violon, la musique triste et les chants qui tirent les larmes à tout le monde. Il y a aussi les rites, comme dit Lucky Luke, un peu bizarres, de cette religion strictement observée, même dans des circonstances les plus folles. Ils continuent à réciter leurs prières, enfin bon, c'est très drôle. Il y a tous les incompréhensibles interdits alimentaires. On a le droit de manger ça, pas ça. La vénération aussi des rouleaux de la Torah qui transportent. Et puis le soin mis dans les bulles où les prières sont écrites dans un hébreu impeccable pour la récitation. Donc, il y a aussi le clin d'œil au strict nécessaire des livres à transporter pour émigrer, c'est-à-dire toute une bibliothèque. Il y a aussi le courage de ces déracinés qui ne se plaignent jamais et qui ne craignent pas les difficultés de l'aventure, en fidèles continuateurs de l'Exode, disant par exemple « Nous sommes des spécialistes de l'inconfort en voyage », se souvenant aussi d'avoir eu des ancêtres qui ont vaguement campé en Égypte. Enfin bon, ils s'adaptent à toutes les circonstances grâce à l'histoire juive. Et il y a bien sûr toute la préparation alors de la bar mitzvah du petit garçon. Le petit dernier, un gringalet qui manie la fronde avec adresse et assomme un grand gaillard qui bien sûr s'appelle Goliath. Et plus difficile à comprendre, je reconnais, il y a l'incroyable rencontre de la tribu des pieds noirs. Ces Indiens qui auraient dû en fait, ou qui auraient pu être, une des tribus perdues d'Israël en exil, et dont la langue et les chants évoquent Les Séfarades d'Afrique du Nord. L'auteur avoue d'ailleurs qu'il s'est servi d'une carte d'un restaurant tunisien pour inventer le dialecte des Indiens pieds-noirs. Hein. Donc, et puis on a en arrière-fond les chants d'Enrico Macias. Alors il y a des tas d'allusions aussi au judaïsme moderne. On voit un petit portrait d'Einstein et on fait aussi allusion à Madoff, en disant que certains juifs ont quand même bien réussi à comprendre comment s'intégrer dans le grand banditisme américain. On parle aussi des Marx Brothers, et on n'oublie pas Rabbi Jacob, qui se trouve en bonne place dans la bande dessinée. Donc, en fait, il faut éplucher cette bande dessinée centimètre par centimètre pour ne rien manquer des clins d'œil subtils du dessin et du texte, et découvrir derrière tout ça, le vrai projet de l'auteur. En fait, il veut sensibiliser notre temps au drame de l'émigration et du déracinement. Il veut aussi montrer la folie des persécutions religieuses, l'absurdité de la haine, et il veut la désamorcer par l'humour. Il souhaite, à travers ce petit livre, faire avancer le monde, dit-il, vers l'amitié universelle par le rire. Bref, cette bande dessinée est un petit bijou de tendresse affectueuse et drôle pour qui accepte de le lire en profondeur et qui veut bien réfléchir à tous les problèmes qui sont évoqués et peut-être même d'accepter de se documenter un peu sur le judaïsme pour mieux comprendre les allusions qui sont faites à toutes les complexités de la religion juive et de la culture juive. Donc, je vous conseille de lire La Terre promise et de l'offrir aussi aux enfants, mais en n'oubliant pas de leur expliquer, parce que sinon, ils ne comprendront pas grand-chose. Sur ce, je vous dis au revoir, chers auditeurs, et à une prochaine émission.